Madame Prunier, nous vous remercions de témoigner dans le cadre de ce nouvel atelier. Vous allez nous faire part de votre travail, de votre expérience, de l'expérience que vous avez dans les soins et dans ce travail auprès des patients. Alors, dites-nous quelle est votre fonction dans le centre ?
Alors, je suis infirmière coordinatrice à mi-temps sur une équipe mobile. On accompagne des personnes qui ont fait un AVC à leur domicile. Et j'ai aussi mon autre mi-temps, c'est de faire les admissions en milieu hospitalier dans les unités. Donc j'ai, voilà. Alors après, j'ai eu un parcours professionnel, parce que je pense que c'est intéressant par rapport aux questionnements qui vont suivre. J'étais soignante ici pendant quelques années, après infirmière dans les unités de soins, après infirmière à l'hôpital de jour. Après, j'avais le statut d'infirmière spécialisée parce que j'ai fait un diplôme universitaire en soins infirmiers de rééducation et de réadaptation. Et maintenant, je suis infirmière coordinatrice dans une équipe mobile. Voilà.
Donc, bon.
Connaissance un peu du centre.
Donc, un parcours particulièrement riche qui, ouais. qui vous permet de savoir de quoi vous parlez.
J'essaye. Enfin, de quoi je parle, je pense, je sais pas si on sait toujours de quoi on parle, mais j'essaye.
Alors, donc, à quel moment intervenez-vous par rapport aux patients et en, donc, c'est l'AVC.
Oui. Alors, sur EMIPAS, sur le service de l'équipe mobile, nous, sur son parcours, on intervient après la phase de rééducation et de réadaptation intensif dans un SSR. Hein, ici.
Ah, d'accord.
Quand ils sont rentrés à domicile, il y a deux possibilités. Ou ils ont été hospitalisés, ils ont fait un AVC, les séquelles sont moindres, ils n'ont pas spécialement de besoin d'une rééducation intensive, mais ils peuvent faire une rééducation libérale. Donc à ce moment-là, ils rentrent chez eux, si l'environnement le permet. Hein. Et donc nous, là, on peut intervenir. Ou alors le patient a des déficits importants et il a besoin d'une rééducation et adaptation intensif, là ils passent par le SSR, par le centre de rééducation, là, non. Et nous on les suivra après. L'idée, c'est un peu par rapport au centre, c'est un peu de voir le projet qui a été élaboré au centre avec le patient, ce qui a été mis en place, comment ça se passe à la maison, parce qu'on sait bien qu'entre un milieu protégé, parce que voilà, où effectivement dès qu'ils ont un besoin, ils sonnent, il y a quelqu'un. Et le retour à la maison où l'environnement, des fois, est un peu compliqué, que ce soit familial ou architectural, hein, y a une différence. Même si ça a déjà été travaillé en amont. Parce qu'ici, ils peuvent faire des vacances thérapeutiques, enfin voilà. Mais c'est encore une autre dimension, je pense.
Mmh.
Parce que même si c'est des vacances thérapeutiques, à un moment donné, ils reviennent ici. Donc il y a quand même cet aspect un peu protectionniste. Hein, alors que là, nous, ils sont rentrés chez eux. Et donc là, on voit effectivement si comment ça se passe, s'il y a d'autres choses à travailler, ou travailler différemment, ou voilà.
Donc vous intervenez après que le choc ait eu lieu.
Oui, oui.
Le choc de la...
Oui.
Alors, sans doute est-il plus difficile pour vous de témoigner de l'après-coup immédiat du choc, mais avec le recul que vous avez, comment en parle-t-il ?
Alors, l'après-coup immédiat, je ne sais pas ce que vous appelez immédiat, c'est-à-dire que nous, ça nous arrive d'accompagner des patients qui sont rentrés chez eux et ils ont eu un AVC il y a 5 jours. Hein.
Ah oui, ah hein, oui, oui, c'est, ah
voilà,
oui, d'accord.
Là, j'ai en mémoire une situation là, qu'on a vécue avant-hier avec mes collègues. La personne, ça faisait voilà, peut-être 15 jours, 3 semaines qu'elle avait fait son AVC et elle était rentrée chez elle depuis 15 jours maximum.
Ah oui, oui, d'accord, donc, oui, j'imaginais que c'était plus long que ça, d'accord.
Bah, ça dépend. Voilà, ça dépend de la problématique de la personne. Mais là, pour cette personne-là, c'est vrai qu'on a senti, c'était très fort en fait, hein, voilà, l'AVC c'est un accident vasculaire cérébral, donc elle est 54 ans, jeune, qui travaillait, donc il se retrouve d'un seul coup dans une situation qu'elle n'avait pas prévue, quoi, voilà, et avec des déficits, alors elle c'était plutôt des déficits cognitifs, plutôt que physiques. Mais du coup, elle l'a relaté. Elle dit qu'elle s'est sentie lâchée, quoi. Lâchée du milieu de la santé. Elle fait un AVC. Elle est hospitalisée dans un milieu, en centre hospitalier. Pendant 5 jours, on fait plein d'examens. Enfin, j'essaie de voir un peu le contexte. Hein. On fait plein d'examens. Et puis hop, on lui dit, bah voilà, on a fait les examens. Au niveau physique, vous pouvez rentrer chez vous. Bon, il y a des petits aspects cognitifs qui sont un peu déficitaires, mais vous pouvez quand même rentrer, hein. Elle rentre chez elle et plus personne, quoi. C'est violent, je trouve. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça violent pour les personnes de vivre ça. Et c'est vrai que quand nous, on intervient et m'y passe, le sentiment qu'elle a eu, elle dit « Enfin, j'ai des professionnels qui vont m'expliquer ce qui m'arrive. Qui vont m'expliquer ce que je peux faire. Qui vont m'expliquer comment je peux agir pour pouvoir éviter une récidive. » Parce qu'il y a tous... voilà.
Toujours le risque.
Ah oui, ouais. Voilà, donc l'immédiat...
Ah oui, l'immédiat, il est quand même angoissant.
Ah ben, il est très angoissant pour les gens qui interviennent. Et ils ont plein de questions et ils ont besoin qu'on leur réponde. Alors, je pense que c'est pas en une heure qu'on va répondre à toutes les questions des personnes. Hein. C'est parce que voilà. C'est
non, tellement...
Mais je pense qu'à partir du moment où on a cet entretien-là, on les écoute, on essaye de répondre à certaines questions. Et ils ont après un téléphone, ils ont des interlocuteurs. Même si le médecin, normalement, généraliste. Il est là pour ça, hein. Il est là pour coordonner, mais on sait bien que la situation sur le territoire creusois, en tous les cas, et je pense pas que creusois, est compliquée pour les médecins généralistes, qui font des consultations, et je pense qu'ils... Alors c'est pas, je juge pas, hein, c'est pas un jugement, hein, c'est la situation qui est comme ça. Je pense que pour les usagers, c'est important d'avoir quelqu'un où on leur dit, voilà, on vous donne notre numéro de téléphone, alors dans notre mode de fonctionnement, on écrit un bilan, on fait un bilan de la situation, et on rédige un projet d'accompagnement avec la personne. C'est-à-dire que nous, on entend ses attentes, on donne, nous, notre avis par rapport à la situation, et de ces deux choses-là, on écrit un projet. Mais qui doit faire consensus. Hein. Et voilà,
la personne est vraiment partie prenante du projet. Ouais.
Il nous est arrivé quelquefois où il y a des gens dont on voit, on se dit, oh là là, mais... ce monsieur-là ou cette dame-là, elle aurait besoin, d'orthophoniste ou de kiné, ou elle aurait besoin d'un accompagnement psychologique ou d'éducation thérapeutique. Enfin, il y a plein d'outils possibles. Et puis la personne nous dit non, moi je veux rien, je veux qu'on me laisse tranquille. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire qu'après, il faut. Nous, on a plusieurs solutions. Ou on dit peut-être qu'il a besoin de plus de temps, parce qu'il y a ça aussi.
Oui.
On essaye de coller au plus à la situation de la personne et aux besoins de la personne. C'est-à-dire des fois, effectivement, on peut se dire il a besoin de plus de temps, on vous recontacte dans 15 jours, 3 semaines, et on voit un peu, là, vous avez peut-être un peu de temps pour que vous posiez un peu les bagages, là, et puis après, on se recontacte. Ou alors, si on voit que vraiment, il est dans le non négatif, on lui laisse notre numéro de téléphone, parce que c'est arrivé que 6 mois après, les gens reviennent vers nous. Enfin, voilà, c'est vraiment du cas par cas. Et...
Oui, vous avez une idée de ce qu'est le sens de ce refus? Je suis certain, parce qu'évidemment, ce n'est pas général.
Alors, le sens de ce refus, c'est qu'il y a des fois, des gens me disent « Non, c'est trop médicalisé. Enfin, » pas nous, on n'est pas médicalisés, mais ils viennent de vivre quelque chose d'intense, qui a remis en question leur vie, leur projet de vie qu'ils avaient en amont, parce que c'est ça. Hein, et du coup, c'est violent, et je pense qu'ils ont besoin de se poser. Alors, souvent, ça peut être des gens qui sont en famille, ou ils ont besoin de se retrouver un peu dans leur milieu. Alors, je ne parle pas des AVC qui ont un gros déficit. Hein. Je parle des gens qui sont directement passés du centre hospitalier général à chez eux. Hein. Et donc, voilà, c'est arrivé que des fois, on nous dise « Bah non, là, on fera un point plus tard, si vous voulez. » ou voilà. Donc, je pense qu'il y a un rythme. Chacun a son rythme d'acceptation. Voilà. Et je pense qu'il faut respecter ce rythme-là.
Bien sûr.
Ouais. Et le respecter tout en aussi pouvant... Enfin, il faut aussi pouvoir alerter quand on voit que... Il y a une situation critique aussi, parce que moi j'ai là souvenir comme ça quand je vous parle d'une situation d'un monsieur qui était au CHU de Limoges. Il a fait un AVC, 4 jours après il nous faisait une demande ici, nous on n'avait pas de place, on n'a pas pu le prendre, je ne sais pas ce qui s'est passé, le CHU l'a renvoyé directement chez lui alors qu'il aurait eu besoin de passer ici. Donc tout de suite nous, la cadre du CHU nous a dit attention, il rentre chez lui, allez-y. Enfin, donc on y est allé, on a groupé avec la PTA, la plateforme territoriale d'appui. On a fait une visite en commun et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, là, ce monsieur-là, je pense que s'il n'était pas rentré à nous et qu'il n'avait pas eu un suivi, il serait mort aujourd'hui. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Voilà.
Oui.
Mais, alors, c'est rare quand on intervient sur des situations comme ça, mais voilà, du coup, je pense que ça peut arriver effectivement que quelqu'un rentre chez lui et il n'ait pas le suivi nécessaire. En plus, c'était des gens qui n'avaient plus de médecin référent. Donc, enfin, c'est une situation qu'on trouve de plus en plus souvent, hein, je trouve, moi.
Oui.
Ouais. Absence de médecin généraliste parce qu'il est parti à la retraite. Et puis,
Ce qui est étonnant dans ce que vous dites, autant on entend dans le témoignage de vos collègues comme de patients qu'on vient de recevoir qu'il y a une disponibilité, qu'il y a une écoute, une forte présence.
Ici, au centre ?
dans le centre,
oui.
Autant il est étonnant que quelqu'un qui vient d'être frappé, si je peux dire, d'un AVC, il se retrouve face à, avec toutes ces questions. Alors vous venez, mais comme vous dites, les questions, il faut le temps pour qu'elles viennent, pour les poser. Pour y répondre, ça se fait pas comme ça d'un coup, en une heure, on va tout solutionner.
Ouais.
C'est étonnant qu'il n'y ait pas un espace de ménager. Vos psychologues n'interviennent pas là dans ce...
Ah si, dans l'équipe où je suis, il y a donc moi qui suis infirmière, il y a une assistante sociale, il y a une psychologue neuropsychologue, il y a un ergothérapeute.
Ah d'accord.
Ouais. Donc quand on rédige le projet, effectivement, selon les besoins du patient, on va proposer un suivi par un neuropsychologue, ou si c'est besoin d'aide à domicile, ce sera l'assistante sociale, ou plus, voilà, en fonction des besoins, il y a des professionnels de santé qui interviennent. Oui.
Ah oui.
Alors après, par rapport au centre, c'est sûr que dans le parcours du patient, il y a des patients qui viennent pas au centre. Qui n'ont pas besoin de venir au centre. Ils rentrent chez eux, c'est ce que je disais, ils rentrent chez eux. Donc là, la solution, c'est nous. C'est nous qui faisons, parce que c'est une équipe mobile, de rééducation, de réadaptation. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand on fait notre point, on peut intervenir sur diverses choses, quoi. L'aspect cognitif avec la neuropsychologue, ou tout le questionnement qu'il peut y avoir autour de l'AVC. On propose aussi de l'éducation thérapeutique. Voilà, mais ça peut être aussi environnemental avec, je sais pas moi, une douche qui est au premier étage et que la personne ne peut plus aller dans sa douche et du coup, il faut revoir un peu les travaux à l'intérieur. Donc là, ça va être l'ergo. Je vous donne des exemples comme ça, qui me viennent. Voilà, ça peut être l'assistance sociale s'il y a besoin de mettre en place un plan d'aide, des aides à la maison. Donc on peut travailler aussi avec les SIAD en fonction des besoins des personnes, de la dépendance. On travaille avec eux pour savoir effectivement... s'il faut que les intervenants interviennent qu'une fois par jour, deux fois par jour. On travaille beaucoup en réseau sur MIPAS, on travaille beaucoup avec le réseau du terrain. Quoi, Mais c'est vrai que par rapport au centre, aux gens qui passent au centre, où effectivement, là, il y a une disponibilité, mais nous, il y a beaucoup de patients qui ne passent pas par le centre. Il y en a qui passent, mais pas d'autres non.
Alors, vous parlez des patients qui ne veulent pas, qui disent non. Comment vivent les autres, ceux qui attendent quelque chose de vous? Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là?
Eh bien,
parlez-nous du programme donc, que vous établissez avec eux.
On a la demande, la personne, alors ça peut être la personne qui nous appelle, mais ça peut être l'hôpital de Guéret, ça peut être le voisin, ça peut être le boucher. On dit tout le temps ça pour dire que n'importe qui peut nous signaler une intervention auprès d'un patient. C'est ça, hein, nous, l'idée. On nous appelle, on dit, voilà, monsieur machin, ou il est rentré de l'hôpital et il aurait besoin de faire un point avec vous par rapport à la situation, ou alors ça fait 6 ans qu'il a fait son AVC, mais il vieillit et physiquement c'est de plus en plus difficile, il peut aussi intervenir. Voilà, n'importe qui peut nous appeler. Une fois qu'on a les coordonnées de la personne, on l'appelle, on se présente, on dit qui on est, on leur dit qui c'est qui nous a sollicité, si c'est pas eux, bien sûr. Et pourquoi on nous a sollicité? C'est un échange téléphonique.
Ça se fait par téléphone, ça.
Dans un premier temps, c'est par téléphone. Il nous dit, ok, je suis d'accord pour que vous veniez, voilà, ou ça peut être l'épouse, hein, qu'on a au téléphone, si la personne elle a des déficits, des troubles du langage, voilà. Ok, je suis d'accord pour que vous interveniez. On fixe un rendez-vous, on y va et on fait un bilan. C'est-à-dire qu'on discute pendant une heure et demie avec la personne pour savoir, voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qu'il attend de nous aussi. Voilà, donc on essaye de... Dans le bilan, on revoit un peu tout. Hein. Ça peut être des antécédents, du traitement, l'environnement familial, l'environnement social. On essaye de balayer un petit peu large, hein, la situation. Les déficits, la dépendance, voilà. Et puis en fin d'entretien, on lui demande, voilà, qu'est-ce qu'il attend de nous. Parce que voilà, c'est important de savoir. Et puis nous, on lui dit après ce que nous, on a identifié sur quoi on pouvait intervenir par rapport à l'entretien, là, du moment. Et donc, de là, on écrit un projet d'accompagnement. On leur dit souvent, donc ça, on le rédige, hein, quand on rentre ici, on le rédige, on écrit et on leur envoie pour leur dire de le relire et de nous valider s'il est toujours d'accord, si on ne s'est pas trompé, parce que des fois, entre ce qu'on entend, ce qu'ils nous relatent, il peut y avoir des incompréhensions. Donc, souvent, enfin, tout le temps, on leur dit, voilà, vous le relisez bien. S'il y a des choses qu'on n'a pas compris, que vous pensez qu'on est passé à côté, vous nous rappelez et puis on refait. Hein. Et puis après, on accompagne sur le projet. Alors, ça peut être, je sais pas moi, des exercices d'auto-éducation, une orientation vers une orthophoniste. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de trouver une orthophoniste pour ce patient libéral. Voilà, ça fait plein de choses, hein, c'est vraiment très très varié. Et on leur dit aussi que ce qui est écrit là, ce jour-là, peut évoluer. C'est pas quelque chose de figé. Parce qu'on sait que le temps fait que bah, ça peut changer, quoi. Et une fois qu'on a, qu'on a fini de cet accompagnement, on refait un point enfin de pour voir un peu si on a répondu à toutes leurs attentes. Si on n'a pas répondu à toutes leurs attentes, qu'il y en a d'autres qui sont réalisables et voilà, on continue. Si effectivement ils n'ont plus besoin de nous, on arrête notre accompagnement en sachant qu'on peut à n'importe quel moment revenir vers eux. Grosso modo, c'est comme ça. Voilà. Qu'on fonctionne.
Un accompagnement peut durer combien de temps ?
Il peut durer 2 heures, j'exagère.
Non, mais
il peut durer une journée, comme il peut durer, le plus long, ça a peut-être été 2 ans, peut-être. Ouais. Alors, ça peut être long parce qu'on fait aussi des programmes d'éducation thérapeutique, et des fois, quand le projet rééducatif, réadaptatif est fini, et on garde le dossier ouvert parce qu'on leur a proposé de participer aux ateliers d'éducation thérapeutique, et on n'en fait que 2 ou 3 dans l'année. Donc ça met du temps, quoi. C'est...
Puisque on vous donne l'occasion de vous poser et puis de porter un regard sur ce travail, qu'est-ce que vous en diriez ?
Sur mon travail.
Sur un mode réflexif, sur ce que vous faites dans cet espace-là.
J'en dirais que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup de travailler dans ce service parce que, alors, on est une équipe pluridisciplinaire.
Et je pense. Combien ?
Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, en théorie, parce que le médecin nous a un peu. On n'a plus médecin en ce moment, mais voilà, médecin rééducateur.
Donc, vous avez une autonomie complète.
Ouais, ouais. Et je pense qu'on a un peu toute la même manière de voir, pas toute la même manière de voir les choses, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on échange beaucoup sur les situations. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on n'a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de situation avec une réponse toute faite. Alors si c'est simple, ça peut, mais quand on a des difficultés, souvent on se pose et on parle de la situation. On se dit, voilà, on a été chez telle personne, voilà ce que moi j'ai ressenti, la neuropsychologue, parce qu'on ne peut pas y aller tous en même temps, hein, on y va à deux en général. La neuropsychologue nous donne son avis, voilà, on peut réintervenir auprès du patient, on retourne. Je pense que c'est ce que j'apprécie. L'autonomie, mais aussi cette réflexion qu'il y a autour du...
Ah oui, ouais, oui.
Qui me semble... Avec, je pense... souvent, on parle de transdisciplinarité. Et pour moi, sur EMIPAS, on y va, quoi, sur la transdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on arrive à créer des choses avec des intervenants différents. Je ne sais pas si je suis claire. Des professionnels différents. Voilà, on travaille beaucoup avec la neuro.
Essayez de mettre des mots sur tout ça.
Oui. En fait, si vous voulez, il y a eu des situations où moi j'ai travaillé, l'infirmière a travaillé en commun, c'est-à-dire pas chacun de son côté, dans un projet. Mais on a travaillé ensemble sur un objectif. Par exemple, avec la neuropsychologue, on a travaillé sur. Je vous donne un exemple, des fois les exemples, j'y arrive mieux. Un monsieur qui devait partir, qui avait fait un AVC, il est venu ici, donc il a fait sa prise en charge, on l'a suivi après, on l'a suivi assez longtemps, et il avait comme projet de repartir en Espagne, parce qu'il avait un appartement en Espagne. Et c'est vrai que tout le monde disait, ça ne va pas être possible, tu te rends compte, même la famille avait été très angoissée, tu te rends compte, tu vas repartir en Espagne, tu as fait un AVC, tu n'es plus capable de faire ci, tu n'es plus capable de faire ça, enfin voilà, avec beaucoup d'appréhension, en plus ils allaient se retrouver dans un pays étranger seul, enfin voilà. Et donc il est venu à l'AED, il est venu à l'appartement là, et on a travaillé sur tout ce qui nous semblait qui
ici là.
Ouais.
Ah oui.
Donc vous voyez, il y a vraiment des passerelles, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, en plus, EMIPAS, on aime bien utiliser ce que le centre peut nous proposer. Donc voilà. Donc on l'a fait venir ici et on a essayé d'identifier quelles pouvaient être les problématiques. Et c'est vrai qu'il y avait une grosse problématique. Ce monsieur était diabétique, sous insuline, et on se disait la barrière de la langue en Espagne. C'est-à-dire que comment il alerte en Espagne, c'est pas la même chose qu'ici. Là, ici, il avait des infirmières libérales qui venaient, qui le coucounaient, quoi, qui l'accompagnaient, quoi, sur ce... Voilà. Et pour lui, c'était vraiment, il fallait qu'il y retourne. Bon, il y avait d'autres choses, on a travaillé d'autres choses. Hein. Mais là, et donc, avec Karen, la neuropsychologue, on a essayé de voir comment on pouvait lui donner des outils qui le rendaient autonome et indépendant. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est vrai que du coup, on s'est posé ensemble et on a créé des outils, à la fois infirmier, à la fois neuropsy, à la fois... Vous comprenez ce que je veux dire ?
Ouais.
Et on lui a proposé. Et ça a pas mal fonctionné, puisque ce monsieur, il est parti depuis 2 fois en Espagne. Bon, maintenant, il a vendu son appart, mais... Et c'est ce côté-là qui est riche pour nous. Enfin, moi, en professionnellement parlant, je trouve que c'est riche. Parce qu'on apprend des autres et... Voilà.
Ah oui, vous avez une liberté de fonctionnement qui est remarquable.
Ouais.
Vous pouvez construire des outils originaux,
oui,
adaptés à chaque personne.
Ouais. Ouais. En travaillant ensemble avec des professionnels différents.
Les patients vous en savent gré ?
Il faudrait leur demander.
Oui, difficile. Mais ils doivent s'exprimer,
oui,
quand même.
Oui, oui, on a les questionnaires de satisfaction, vous savez, les petites choses qu'on rentre avec des croix. Là. A priori, ils ont l'air satisfaits. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent, on est... quand on a, par exemple, pour ce monsieur-là, on a vraiment créé cette relation de confiance, je pense. C'est-à-dire que déjà, il sait qu'il peut nous appeler à n'importe quel moment, il le fait. Moins maintenant, parce que je pense que du coup, il a eu plus besoin de nous. Mais c'est vrai que pendant toute cette période-là, il nous appelait. On était identifiés, je pense, comme une source pour lui. Je pense que oui. Bah, lui, en tout cas, je pense qu'il a dû, parce que sinon, il ne serait jamais parti. Hein. Je pense que ça freinait tellement au niveau professionnel, au niveau familial, pour qu'il parte. Je pense que si on n'avait pas accompagné, il serait pas parti. Ouais. Et puis souvent, les gens nous le disent, hein. Les gens nous le disent. Hein. Bon, après, voilà quoi. Après, des fois, ça peut être frustrant aussi, hein, quand on n'arrive pas à créer ce lien-là. C'est ça aussi, hein. Quand les gens nous refusent notre intervention, nous, on pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire, enfin, les accompagner, et qu'ils ne veulent pas, et qu'on n'a pas réussi à trouver ce petit truc-là qui fait que, ben, on a créé ce lien, et que du coup, tout doucement, on avance avec eux, ben, ça peut être frustrant.
Mais oui.
Il y a eu des situations où on a arrêté l'accompagnement parce que on a été confronté à tellement de problématiques, on a passé le relais, quoi. Ça aussi, il faut savoir le faire, je pense, passer le relais.
Le fait d'intervenir à domicile n'est pas un problème ?
Non.
Non ?
Non.
Chez ceux qui refusent, je veux dire.
Ouais. Non. Bah, si, ils refusent, si quand on les appelle, ils refusent, on n'y va pas, déjà. On ne va pas chez les gens sans... On ne s'impose pas. Et quand on y est allé, s'ils ne veulent pas qu'on retourne chez eux, ben c'est pareil, hein, ils sont chez eux. Ben, je veux dire, vous parliez du patient acteur, ben, ça a tout son sens. Nous, je veux dire, pour pouvoir avancer avec les gens, il faut qu'ils soient d'accord pour qu'on avance avec eux. Ben, on ne peut pas s'imposer, quoi. Sinon, ça ne marche pas.
Oui, oui, c'est sûr. Ouais. C'est toujours la question de cette demande. Quand il n'y a pas de demande alors qu'il y a un besoin, comment s'y prendre ?
Ouais, c'est ça.
On risque de laisser les gens dans la
avec
souffrance,
des...
dans la...
Alors, si vraiment on voit qu'il y a une souffrance... Ou
en danger.
On essaye de... Si nous, on n'y arrive pas, on essaye de faire des relais. Dernièrement, on a eu un monsieur qui avait des propos suicidaires. Hein. Nous, on a du mal à accompagner les propos suicidaires. On n'est pas... Enfin, moi, personnellement, j'avoue que c'est compliqué pour moi. Et bien, on a fait un relais avec la psychiatrie de la Valette, avec l'équipe mobile de la Valette.
Bien sûr, oui.
Donc, on y est allé ensemble, on a passé le relais, et voilà. Parce que je pense qu'il faut connaître ses limites, et puis... Et après, toujours essayer de trouver une solution.
Oui, oui, bien sûr, oui. Voilà.
Nous, c'était pas spécialement un échec pour nous, hein. C'était de se dire, bah, là, on peut pas. Là, on peut pas, donc qui sait qui peut ? Des fois, bah voilà, c'est. Après, on a vu, hein, des situations. Je vois avec des personnes, un couple qu'on a accompagné, là, des gens en plus qui avaient d'autres problématiques, hein, comme l'alcoolisme. Ça a été très compliqué. Hein. Ça a été très, très compliqué. Mais on se rend compte que comme vous disiez, hein, tant qu'ils sont dans le déni, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y avait la personne, elle a fait un AVC, en plus, elle est alcoolique. Enfin, là, c'est. C'est-à-dire qu'il faut lui faire entendre que sa problématique, effectivement, il y a l'AVC, mais que l'alcoolisme, il y a des risques pour cette personne-là, mais quand ils ne veulent pas.
Ah oui, c'est sûr que c'est...
Ça peut être frustrant, oui, Enfin, nous, la situation de ce monsieur-là, ça nous a un peu frustrés, ouais, parce que. Parce qu'on n'a pas eu l'impression de pouvoir faire avancer les choses, quoi.
Bon, c'est enthousiasmant ce que vous nous dites.
Hein?
Ben vous êtes enthousiaste là dans ce que vous faites.
Parce que j'aime ce que je fais, je pense
c'est
que
c'est important. Ouais, ouais. C'est un plaisir, ouais. Hein, Amandine, c'est un plaisir.
Oui, ça c'est sûr, hein. C'est certain.
Bon, ça ne m'empêche pas de râler de temps en temps. Hein.
Ah ben,
beaucoup d'ailleurs, je crois.
C'est mes nécessaire.
Collègues, mes collègues vous le diraient. Karine, qu'est-ce qu'elle râle?
C'est nécessaire. Il y a des questions qu'on ne vous a pas posées, que vous voudriez... que vous auriez aimé vous poser.
Des questions que j'aurais aimé moi me poser. Ouais. Eh bien, on a parlé de ma casquette EMIPAS, voilà, d'infirmière coordinatrice, et pas de la casquette administrative de faire rentrer les gens dans les lits. Je fais exprès, hein, les mots que j'emploie sont... Voilà, de faire rentrer les gens dans des lits, mon autre mi-temps, et qui est là, pour le coup, je pense que je serais moins enthousiaste, si vous voulez que je vous en parle. Parce que c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de téléphones, beaucoup... Et j'apprécie beaucoup moins.
Là, vous n'êtes pas en contact avec les patients, dans ce cas-là.
Non, au téléphone, un peu. Mais non, pas de contact avec, avec les patients.
Oui.
Et avec, effectivement, le fossé entre la situation qu'on a, nous, aux admissions, et quand ils arrivent ici. Et je trouve que c'est un poste qui est très... qui a besoin, hein, mais ça c'est sûr, mais qui est très très compliqué en fait. Enfin, pour moi c'est compliqué. Parce que je sais pas, je suis pas sûre qu'on répond tout le temps aux besoins du patient, à ses attentes. Et voilà, et ça reste beaucoup de l'administratif, hein, monsieur machin, il a telle ou telle chose, ok, vous êtes des médecins, ok, on peut le prendre, on a un lit, on le met dans le lit, vous voyez ce que je veux dire? On reste... Voilà, ça reste très... Alors là, pour le coup... Des fois, on a envie d'aller. Moi, personnellement, j'aurais envie d'aller plus loin. Ok, je l'ai fait rentrer dans ce lit. Qu'est-ce qu'il est devenu après?
Eh oui.
Ouais. Comme quoi, c'est important de faire un métier qu'on aime. Hein.
Ouais. Bon. On va s'en tenir là. On a prévu autour d'une demi-heure par entretien, parce qu'après, c'est difficile à. Au niveau
exploiter.
De la. Pour les personnes pour écouter les témoignages. Donc, nous vous remercions. Et puis, nous aurons plaisir à vous retrouver.